Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Face à la guerre qui déchire l'Est de la RDC, il n'y a pas de solution militaire. La paix ne pourra être rétablie que grâce à des solutions politiques durables. Déclaration de la chef de la MONUSCO hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Bintou Keïta présentait son rapport trimestriel sur la situation en RDC. Recrudescence des incendies à Bukavu. La plateforme Dinacode RDC intente une action en justice contre inconnu. Elle dit avoir répertorié près de 20 incendies avec beaucoup de morts et des pertes des maisons ainsi que des biens de valeur sans que personne ne soit interpellé. Cette organisation interpelle l'autorité judiciaire à ce sujet. Et puis, Kisangani, les victimes de guerre éligibles à l'indemnisation commencent à être servies, mais des mécontentements demeurent au sein des supposées victimes. Pour en parler, nous recevons la secrétaire rapporteure du Fonds social de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. À tous et à toutes, bonjour. La chef de la MONUSCO exprime sa vive préoccupation face à l'avancement rapide du M23 au Nord Kivu et de son expansion au Sud Kivu. Madame Bintou Keïta s'est ainsi exprimée hier lors de son rapport trimestriel présenté devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en RDC. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies dénonce aussi l'appui du Rwanda au M23. Cependant, face à la guerre qui déchire l'Est de la RDC, la chef de la MONUSCO estime qu'il n'y a pas de solution militaire. Elle rappelle ici les différentes options qui ont été faites aux membres du Conseil de sécurité pour résorber cette crise. Madame Bintou Keïta.
Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, comme sollicité dans la résolution 2717-2023, le secrétaire général vous a soumis une lettre identifiant les différentes options possibles de soutien à la SAMI DRC, dont le mandat a été endossé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mars. Je ne reviendrai pas sur les options qui vous ont été présentées, mais voudrais rappeler, comme mentionné dans la lettre, qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit et que la paix ne pourra être rétablie que grâce à des solutions politiques durables. J'exprime donc ma gratitude et mon plein soutien aux efforts continus de médiation menés par le président angolais João Lourenço entre la RDC et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda. Ceci qui nécessite le plein soutien de la communauté internationale. Je salue à cet égard la tenue prochaine d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine à l'initiative de l'Angola pour discuter de la situation à l'Est. Ces efforts régionaux doivent être menés en complémentarité avec les initiatives de médiation au niveau provincial et local destinées à faciliter le désarmement des groupes armés dans l'esprit du processus de Nairobi.
Par ailleurs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, doit prendre des mesures efficaces pour la protection des civils qui sont victimes des atrocités des groupes armés dans l'Est de la RDC. Appel lancé par l'Union des associations culturelles pour le développement qui regroupe toutes les communautés ethniques de l'Ituri. C'était hier à Bunia au cours d'un point de presse. Selon cette structure, il ne se passe pas deux jours sans enregistrer des morts par les rebelles des EDF ou des milices locales. Elle demande également à la première ministre de dépêcher une équipe gouvernementale en vue d'évaluer l'état de siège qui, selon cette structure, n'arrive pas à endiguer l'insécurité dans l'Ituri. Écoutez à ce sujet Michel Meta, cadre de l'Union des associations culturelles pour le développement. Il est au micro de Isaac Remoyope.
Nous recourons toujours auprès de notre gouvernement qui est représenté par le chef de l'État, qui a prêté serment pour protéger les vies humaines et les biens de la population. Je crois que le moment est venu pour que lui prenne des mesures vraiment nécessaires pour la protection de nos populations de l'Ituri. Parce qu'il ne passe même pas une ou deux jours que nous puissions enregistrer des morts et je pense que ça n'est trop pour la population. Nous demandons à ce que la première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, et le ministre de la Défense nationale et ses combattants et celui de l'Intérieur fassent une mission très rapidement en Ituri pour évaluer l'état de siège en toute objectivité, à toute indépendance s'il est temps pour qu'on revienne sur ces mesures-là pour voir leur efficacité parce que ce que nous visons, c'est l'objectif zéro mort dans la province de l'Ituri.
Pour rappel, plus de 40 personnes ont été tuées en l'espace de 3 semaines dans différentes entités de l'Ituri. Et justement, à propos de l'insécurité dans la partie est du pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi a donné hier des orientations à suivre par le haut commandement de l'armée nationale pour renforcer la sécurité et préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Ces instructions ont été données au cours de la deuxième réunion de la task force du haut commandement militaire, rapporte la présidence congolaise. Cette réunion succédait à celle du vendredi 5 juillet. Peut-on lire sur le compte X de la présidence de la RDC, le haut commandement militaire, certains ministres et conseillers du président de la République et les responsables des services de sécurité ont pris part à cette réunion. Retournons en Ituri, où le dernier groupe d'environ 400 militaires des FARDC ont clôturé hier à Bunia la formation d'un mois sur les techniques de combat dans des zones difficiles d'accès. C'est en prévision de leur déploiement dans le territoire de Djougou pour combattre les groupes armés qui commettent des exactions contre la population. Cette formation est assurée par les casques bleus de la MONUSCO en vue d'accroître la capacité opérationnelle de ces militaires venus du centre de Kamina. Reportage signé Isaac Remoyo.
C'est par ce slogan « Ne jamais trahir la RDC » que ces militaires ont célébré la clôture de la formation sur les techniques de combat, l'embuscade, les raids, les missions spéciales, les montages et les démontages des armes ainsi que les droits de l'homme. Ils ont également appris comment combattre l'ennemi dans les zones difficiles d'accès, dont les montagnes. Cela en vue de les rendre professionnels et affronter tous les défis sur le terrain dans leur rôle de sécurisation de la population et de l'intégrité territoriale, précise le commandant en charge des opérations de la 32e région militaire des FARDC. Le colonel Faustin ajoute que ces militaires vont rejoindre leurs compagnons d'armes déployés récemment dans les territoires de Djougou pour combattre les groupes armés actifs en violation des actes d'engagement pour la cessation définitive des hostilités dans les territoires de Djougou.
Ici en Ituri, la situation sécuritaire est complexe par rapport à d'autres coins du pays. Nous avons des groupes armés Codeco, Zaïre, Autodéfense, ADF qui commettent des exactions. Dans ce contexte, il faut aider les militaires des FARDC à s'y adapter pour réagir en cas d'attaque.
Cette formation est organisée à la demande du gouverneur des provinces pour imposer la paix en Ituri. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu, je vous l'ai dit dans les titres, la plateforme Dinacode RDC intente une action en justice contre inconnus en rapport avec la recrudescence des incendies dans la ville de Bukavu. Cette organisation dit avoir répertorié près de 20 incendies déclarés dans la ville, emportant près de 1000 maisons calcinées en moins de 10 mois. Beaucoup de pertes en vies humaines et des biens de valeur ont été enregistrés sans que personne ne soit interpellé, arrêté ni condamné à ce sujet, s'indigne cette organisation de défense des droits humains. Son coordonnateur, Maître Patien Bachombe, demande à l'autorité judiciaire de mener une enquête minutieuse tendant à dénicher et mettre hors d'état de nuire les auteurs présumés de ces actes afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Maître Patien Bachombe est au micro de Jean Kassami.
Nous avons analysé depuis novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, juillet 2024, on a observé une recrudescence de cas d'incendie d'envergure dans la ville de Bukavu. Et nous nous sommes dit, nous devons analyser quelles sont les causes qui amènent à ces cas qui ne se terminent pas. Et c'est comme ça que nous avons commencé à échanger avec certaines victimes qui nous ont révélé certaines informations. Et nous avons estimé que ces informations devraient faire l'objet d'une enquête minutieuse. Et nous avons décidé d'introduire une plainte auprès du parquet près le tribunal des grandes instances de Bukavu, parce que nous croyons qu'il doit être en possession de toutes ces informations et avoir d'autres informations complémentaires qui amèneraient à dénicher ces inciviques qui seraient en train de se livrer à des actes d'incendie dans la ville de Bukavu.
Santé. La Fondation Faveur Santé Universelle pour la Femme, l'Enfant, le Milieu Carcéral et la Lutte contre le Cancer s'active dans la sensibilisation contre la prostate et le col de l'utérus. Selon la présidente de cette structure, chez l'homme tout comme chez la femme, beaucoup meurent au stade avancé de la maladie par ignorance. Revenant sur les causes, Dr Roland Kabangu rappelle à tous la nécessité de se faire dépister à temps. On l'écoute.
Pour le cancer du col de l'utérus, Il y a ce qu'on appelle le papillome virus humain qui en est la cause principale, en dehors certes des autres facteurs de risque. Ce virus, normalement, on peut le retrouver partout. Généralement, d'ailleurs, on dit que nous, les femmes, on en a et que c'est lorsqu'on s'expose encore plus que l'on peut développer le cancer du col de l'utérus. Alors, il est plus important, lorsque nous sensibilisons, de pouvoir interpeller la femme sur sa façon de pouvoir gérer son hygiène génitale. Pourquoi ? Parce que la transmission, elle est sexuelle. Alors, il est très important pour la femme de pouvoir prendre soin d'elle, de pouvoir mieux gérer sa vie sexuelle et reproductive. Interpellons également sur les autres facteurs de risque tels que le régime alimentaire, l'hérédité, les antécédents familiaux. En ce qui concerne le cancer de la prostate, généralement, nous sensibilisons en demandant aux hommes qu'à partir de 40 ans, qu'il est très important de se faire dépister. Pourquoi ? Parce que l'âge est le facteur principal, en dehors certes des autres facteurs de risque aussi.
Rendons-nous au Nord Kivu. Une hausse de prix de certaines denrées alimentaires est observée sur le marché de la ville de Beni. Principale cause de cette situation, la sécheresse dans les milieux d'approvisionnement. Guylaine Kassassi a visité quelques marchés de Beni. Voici son reportage.
Au petit marché de Mayangose, le prix des légumes a doublé depuis un mois. Un tas des amarantes qui coûtait 500 francs est devenu actuellement à 1000 francs congolais. Il en est de même des épinards, les gombos communément appelés dongo-dongo, les feuilles de manioc et d'autres légumes. La rareté de ces produits est causée par la sécheresse qui sévit dans la région de Beni, comme les 17 vendeuses. Hier, rareté des légumes à cause de la sécheresse. Le cultivateur nous amène un tas de amarantes, épinards, feuilles de manioc à 1000 francs. Le prix de concombre a aussi haussé. Avant, 3 concombres coûtaient 500 francs, mais aujourd'hui, un seul fruit coûte 1000 francs. Une situation qui affecte certains ménages. Hélène Kavira, qui Kitulizo est femme ménagère rencontrée au marché de Mayangose, explique.
Les amarantes, le prix a haussé. Pour le moment, pour avoir une quantité peu suffisante, au moins 3000 francs. Alors qu'auparavant, on pouvait acheter les légumes de 1000 francs.
Signalons également que le prix de la pomme de terre, l'un des aliments les plus consommés dans la ville de Beni, a presque doublé. Un kilogramme qui se vendait il y a un mois entre 1000 et 1200 francs se négocie actuellement entre 1500 et 1800, voire 2000 francs. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
À Mbandaka, parlons des établissements Fojuki, une entreprise de jeunes spécialisée dans la fabrication des détergents et désinfectants. Elle s'occupe aussi de la désinfection des hôtels et des établissements sanitaires. Et le président délégué général de ces établissements a organisé le week-end une formation en marketing. Objectif, booster les activités et étendre le marché de cette entreprise en vue du bien-être des jeunes employés. Le point avec Paul Richard Malingela.
À ce jour, le PDG des établissements Fojiki Let's Help Each Other n'a que 24 ans. Mais avec ses produits appréciés localement en Mbandaka, Jumexi Kitoko a l'ambition d'aider beaucoup d'autres jeunes engagés dans son entreprise à se développer et à contribuer à l'assainissement de la ville.
Dans notre entreprise, tout d'abord, c'est le développement. D'aider, augmenter les recettes, parce qu'une fois un marketeur travaille comme il faut, dans notre entreprise, on va gagner beaucoup plus et lui aussi, il va beaucoup bénéficier.
Pour parvenir à booster les recettes de l'entreprise et le bien-être des employés, Jumexi Kitoko choisit de cultiver en eux l'esprit marketeur. Ainsi, le formateur en marketing a précisé quelques qualités qu'ils doivent adopter. Nathan Lilengue.
Il doit savoir bien s'exprimer, il doit avoir l'argumentation, il doit être capable de convaincre le client par rapport au produit qu'il est en train de faire la promotion. Et aussi, il doit avoir de bonnes attitudes, être courtois, gentil, poli quand il est en train de communiquer avec les clients.
Rappelons que les établissements Fojiki emploient près de 20 jeunes garçons et filles pour leur auto-prise en charge. Ils s'occupent de la fabrication des savons, des parfums, des désinfectants et des détergents, et surtout de la vente et livraison à domicile de ces produits, notamment en Mbandaka, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Ils assurent aussi le service de désinfection des maisons et des bâtiments publics. Mbandaka, pour Chamalingue, la Radio Okapi.
Province du Maniema, la station Inera Salubieza éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Une station de recherche agronomique qui n'a ni matériel ni laboratoire. À quoi bon de s'appeler station nationale pour l'étude et la recherche agronomique, s'interroge son chef de station, Augustin Moulongoy, est au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous le savez, la mission de l'INERA est spécialement focalisée sur la recherche agronomique, y compris aussi la production de semences de tous bords. Donc là, je vois la semence de souche, la semence de pré-base, ainsi que la semence de base que nous avons toujours mis à la disposition des agrimultiplicateurs. Mais comme vous avez constaté vous-même, le tas de maisons, ça ne permet pas à ceux que le chercheur vienne s'installer ici et commencer à faire la recherche dans le bon sens. Étant donné que nous n'avons ni le matériel, nous n'avons ni de maisons pour habiter, mais comme nous avons été mandatés par le gouvernement congolais, nous sommes en train de faire les activités de la production de semences de base. Mais au-delà de ça, la grande difficulté, c'est la réhabilitation de la station. À part la réhabilitation de la station, nous avons aussi la difficulté de manque de matériel. Une station de recherche doit normalement avoir le matériel de recherche. Et là, je vois par exemple les laboratoires. Nous n'avons pas les laboratoires. Nous n'avons même pas une mini-station de climatologie pour peut-être renseigner les calendriers agricoles. Alors, c'est pratiquement difficile pour nous de faire la recherche dans le bon sens, étant donné que tout ce que je suis en train d'évoquer là ne sont pas disponibles au sein de la station INERA Salubezi.
Actualité internationale.
La Russie a mené hier une attaque massive contre les villes d'Ukraine, touchant notamment un hôpital pour enfants de Kiev, rapportent les autorités ukrainiennes. Au moins 37 personnes ont été tuées et près de 100 bâtiments endommagés.
L'invité.
Nous sommes dans la Tchopo. Les victimes de guerre inscrites sur la première liste de personnes éligibles à l'indemnisation ont déjà commencé à être servies à travers leurs comptes bancaires. Cependant, certains mécontentements sont enregistrés dans les milieux des supposées victimes. Où en sommes-nous avec ce processus d'indemnisation? Nous en parlons avec Madame Mimi Mopunga, secrétaire rapporteure du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Elle est avec Jacques Mukonkole.
Madame Mimi Mopunga, bonjour.
Bonjour.
À ces jours, où en sommes-nous avec le processus d'indemnisation individuelle des victimes de guerre?
Merci beaucoup pour la question. Une réunion de conseil d'administration au mois de mai, là où on a validé au moins 1556 cas de victimes, donc de pertes en vie humaine et puis de blessés. Mais au total, la coordination de FRIVAO avec la commission ad hoc avait validé 3179. Et on a écrit une lettre à l'époque pour transmettre le rapport du conseil d'administration auprès de la ministre d'État, ministre de la Justice sortante, et elle avait accordé à ce qu'on puisse payer à tous les certifiés, les 3179 victimes.
Combien de victimes à ce jour ont déjà été payées?
Nous avons 101 victimes qui ont été payées au niveau d'Eurobank. Avant, on a payé 73, après 28 personnes. Donc, si vous faites la sommation, ça va vous donner 100 et quelques. Et il y a encore certains dossiers qui traînent au niveau de la banque. Mais il faut aussi retenir une chose que parfois, les victimes aussi traînent les pas pour aller au niveau de la banque en fait qu'on puisse ouvrir leur compte.
Est-ce que ces nombres n'est pas minoré par rapport à la grandeur de la ville de Kisangani?
Il faudrait retenir une chose. Normalement, selon l'esprit de l'arrêt de Cour internationale de justice, on devrait seulement indemniser d'une manière collective pour éviter tout cela, puisque on ne peut pas comprendre l'écart qui existe entre ce que le gouvernement a payé en 2021, la liste est des 3600 et quelques victimes. Mais on a quitté les 600 et quelques mille victimes pour 14 000. Allez-y un peu comprendre. C'est ça notre grande difficulté.
Qui alors doit être indemnisé?
Et le décret créé à FRIVAO demande à ce que ne puisse être indemnisé que la vraie victime. C'est le travail que nous sommes en train de faire.
Alors comment pouvez-vous expliquer aussi certains mécontentements avec menaces et parfois de manifestations des rues?
C'est la question que moi je me pose. Puisque normalement, on n'a pas compris dans ces mouvements, oui, j'ai parlé ici de 14 000. Mais quand vous regardez ceux qui manifestent, c'est parfois même pas 100 personnes. Il y a l'anguille sous roche. Puisqu'il n'y a qu'une équipe accompagné des mouvements citoyens, des syndicalistes, à quelques ONG des droits humains. C'est là où réside la question. Toutes ces structures-là d'accompagnement, quand et aussi ils réclament à ce qu'on puisse leur payer, en qualité de quoi? Ils ne sont pas victimes s'ils ont accompagné. Donc, c'est du bénévolat.
Combien l'Ouganda a déjà payé jusque-là?
L'Ouganda a payé 130 millions. Et dans les 130 millions, il faut comprendre qu'il y a des quotités. Nous, les FRIVAO, nous ne gérons que des quotités. Et une quotité revient au pouvoir du gouvernement. C'est ainsi qu'on parle pour la première tranche, les 9 millions que le gouvernement avait donné à travers le ministre de l'énergie à la SNEL pour la réhabilitation de la centrale électrique au niveau de Kisangani et des 1 750 000 $ qu'on avait remis au ministre des développements rural et lui à son tour a donné à l'OVDA. Et pour la deuxième tranche également, nous avons reçu l'autre quotité qui revient au gouvernement pour la réparation des ressources naturelles et est resté dans le compte ministère de la justice. Donc, en soi, s'il faudrait le dire, nous, jusqu'à là de Frivan, nous avons reçu 102 millions de dollars pour les deux quotités.
À quoi servent ces quotités que vous recevez?
La quotité que nous recevons sert à l'indemnisation individuelle et collective ainsi qu'aux réparations des ouvrages, c'est-à-dire des maisons, des biens qui ont été endommagés.
Alors, le ministère de la Justice vient de publier un communiqué qui gèle vos comptes au niveau de la Rawbank. Comment vous avez reçu ce message?
Moi, je peux dire que jusque là, nous, on n'est pas encore informés. Puisqu'il s'agit de la gestion de la République. Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux que moi je peux considérer une information. C'est à prendre avec des pincettes, puisque nous sommes dans l'administration. Nous attendons à ce qu'on puisse être notifié de cette décision-là. Ce n'est qu'après que nous pourrons réagir face à ces communiqués.
Madame Mimi Moponga, merci.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Les informations de Radio Capi sur votre télé.